Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Pour l'amour du ciel, faites ce qu'il vous dit.
You talking to me? You talking to me?
Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la haine. Tout ce qu'il voulait, c'était les réponses que nous cherchons tous.
On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette 30e édition de Focus Store, un numéro collector à partager avec vos copains évidemment. 30 fois déjà que l'équipe du magazine Focus Vif se réunit en secret pour ses symposia occultes dans la crypte du bunker Roularta pour vous parler culture. L'idée pour ceux qui découvriraient seulement l'émission, il n'est jamais trop tard, c'est de discuter des gros morceaux culturels des jours écoulés. Nous sommes tous journalistes, tous spécialisés dans des matières différentes, tous professionnels de la critique. Autour de la table, il y a Laurent Raphaël, le chef, Laurent Brex qui dirige les pages musique de Focus et Olivier Van Varenberg, journaliste qui lit pour nous des vilains bouquins. Bonjour à tous.
Salut.
Et aujourd'hui, surprise, comme c'est la 30e, nous accueillons un invité qui n'est pas journaliste, qui est artiste et que nous aimons beaucoup chez Focus, qui nous fait le plaisir et l'amitié de se joindre à l'équipe le temps d'une petite heure. Son nom rappelle cette magie noire qui jadis faisait peur aux profanes. Bonjour Balogi.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, est-ce que les petits devoirs de vacances qu'on t'a donnés ont été faciles à caser dans l'agenda ?
Tous sauf le bouquin.
D'accord, voilà, c'est dit. Donc, comme nous, tu as vu un film, pas son genre de Lucas Bellevaux, tu as écouté un disque, celui des Black Keys, tu as regardé une série Fargo et tu as lu un livre intitulé « Il est de retour ». On va parler de tout ça dans quelques minutes, mais juste avant, on va écouter un de tes morceaux pour achever de te présenter à ceux qui, admettons que ce soit encore possible, ne te connaîtraient pas encore. Et c'est l'expert... mais oui, qu'il s'en aille. Et c'est l'expert qui a choisi ce morceau, c'est Laurent Houbrex. Qu'est-ce qu'on va écouter, Laurent?
Ah ben tu vas me le dire.
Ah mais non, je t'avais dit que tu devais le choisir.
Mais je t'en ai filé trois, Myriam Leroy.
Mais vas-y, pioche dedans.
Tout ça nous rendra pas le Congo.
Ah ben voilà, on écoute ça, on se retrouve juste derrière.
Freestyle ici.
Ok, écoute-moi. J'ai beau fermer les yeux, j'ai encore ces visions de corps avachés sur le sol, de la route de la perdition. Et j'ai hurlé comme après ma circoncision. Je suis entouré de fantômes, où est-ce la mort qui fait apparition? J'en ai pissé dans mon lit, sommeil interrompu. Et j'ai du mal à en parler, à bâton rompu. Août 89, je m'en souviens. J'étais pris de crampes, un talon sur la tempe. À implorer que les enfants des campes, ils ont voulu nous humilier à travers notre descendance, que les ovaires de nos femmes soient souillés de leurs semences. Depuis ce jour, j'ai que notre famille est maudite. La mort gravite autour de nous et je le sens. Après les pillages, je suis retourné au village, à abandonner Lucienne, les enfants et mon pays d'ancrage. Prétextant que l'armée chassait les Kassaïens, mais ce que j'ai fui m'a rattrapé par un autre moyen. Preuve en est, même si le pays est divisé, mon fils aîné de 13 ans est rentré dans une de leurs unités. Pardonne ma lâcheté. Au pays de la devise et de la débrouillardise, on n'a pas attendu IB. Pour faire du troc, je passe du chantier à la cuisine, du ciment au manioc. Faut investir dans l'avenir comme dit le front commun. Je répare un camion pour faire dans les transports en commun. Je viendrai chez vous dès que mes papiers seront fixés. T-shirt à l'effigie de Lumumba et leur faire oublier le tché. Je rêve de jouer au loto, boire de cette bière, du temps de l'union minière et du MPR. Visitez votre matongue, chaussée d'XL. Donne-moi de tes nouvelles par téléphone ou par mail. Que Dieu te garde, te reste dans mes prières, je t'embrasse. Ça ne vous rendra pas le Congo. Ça ne vous rendra pas le Congo.
Je viens de mon numéro de mon lingot, non.
Ça ne vous rendra pas le Congo.
Ça ne vous rendra pas, ça ne vous rendra pas.
Ça ne vous rendra pas, ça ne vous rendra pas.
J'ai reçu ta lettre, fin juin, enfin. Elle m'a laissé mal en point, mais néanmoins j'ai cessé d'en relire chaque mot, chaque phrase, chaque nom, chaque détail, chaque photo, chaque visage. Est-ce un mirage, une illusion, un hologramme? Où est-ce la raison qui a rendu l'âme la terreur vue du 6 comme la terre vue du ciel? Ça paraît loin de nous, ça paraît irréel.
quand je pense à Kitekin et les tiens, qu'ils chassent notre ethnie comme les prénoms chrétiens. Ton fils, un assassin, au regard de braise, à présent, trouve son assurance dans un M16. À 14 ans, en quarantaine, ils l'ont pris pour un sorcier car il s'est foncé au kérosène. En arrivant dans l'Est, il a tué par accident un de ses cousins en le prenant pour un partisan. Putain, l'horreur est humaine et l'on s'extermine. Il voulait être un sauveur, pas un soldat anonyme. L'horreur est humaine. C'est quoi? Même si l'Occident a bon dos, hein. Le pillage de nos minéraux, de nos lingots. Et reproduire les schémas coloniaux. Car la terreur vue d'ici, c'est comme la terre vue du ciel. Ça paraît loin de nous, ça paraît irréel. Les enfants, la libération du gros indien, ils voient l'Europe comme le Far West en vain et pour rien. En attendant leur chèque de la Western Union, rêve de dévaliser une délégation. Disent le pays en transition, la guerre une escale. Pour cet idéal, passe au plan Marshall, le règne du maréchal l'a laissé bancal. Et disent que l'UNESCO n'aide que les pays cartes postales. Au lieu de s'affairer aux affaires courantes, car un tiers du pays est sans courant ni eau courante. Les guerres ethniques renforcent le statu quo. Le Congo est un terrain de stratégo. Tous ces pays voisins devenus rivaux dans le pillage de ces minéraux, de ces lingots. Et ça dégringole, le pays est sous contrôle. Et c'est pire qu'au temps de Léopold. Entre la loi de la jungle et celle des protocoles, la révolution a besoin des bénévoles. Et tant que l'opinion publique abdique, le Congolais reste le nègre de l'Afrique. Même si l'Occident a bon dos, hein. Le pillage de nos minéraux, de nos lingots. Et reproduire les schémas coloniaux. Congolais à part entière, tous apparentés, laissons nos différents à part, on a un pays à remonter. Pendant que le virus se donne comme des prospectus, les nouveaux missionnaires font de leur Emmaüs des petites, moyennes entreprises. Ils ne connaissent pas la crise, la crédulité des gens en guise de budget. Ils investissent ou s'arrêtent des ONG. Et j'admire ton courage, ton sens de la débrouille. Ton cœur est trempé dans le zinc, ils résistent à la rouille. Mais cessent de croire en leur séance d'exorcisme. Ils n'ont pas de cure contre le paludisme. Moi, je suis un géant chez les pygmées. Depuis que ma carte verte est périmée, le noir fait déprimer. La dépigmentation de la peau laisse des séquelles. Et le choc est culturel. Nos développements est à l'arrêt comme la gécamine. Complexé par nos taux de mélanine. L'intégration passera par l'argent, mais la détermination reste le facteur déterminant. Même si l'Occident a bon dos, hein. Le pillage de nos minéraux, de nos lingots. Et reproduire les schémas coloniaux. Car la terreur vue d'ici, c'est comme la terre vue du ciel. Ça paraît loin de nous, ça paraît irréel. Avant de filer à la congolaise, je voulais revenir à la genèse. Ça fait... Hey, hey, come on. Ok. Congolais du sud, du nord, de l'est, de l'ouest. Tous congolais à part entière, donc tous apparentés. Laissons nos différents à part. Un pays à reconstruire. Ok. Changement donne le vertige. Main qui donne, main qui dirige. Évoluer mais dépendant. Main qui donne, main qui apprend. Changement donne le vertige. Main qui donne, main qui dirige. Évoluer mais dépendant. Main qui donne, main qui apprend. Et les frères se déchirent pour des billets à l'effigie de Lincoln. Et toujours le même cancer qui ronge sous le tropique des Capricornes. C'est le règne du vaudor. Les frères noient leur esprit dans la spiritueuse. Ils croient en Dieu avant de croire en eux.
Écoute-moi, écoute-moi bien mon petit. Tu sais pourquoi, sais-tu pourquoi mon ami. Un jour des moines sont arrivés par bateau. Ils en sont descendus, ils avaient un drapeau.
Ils l'ont planté devant nous en criant que notre terre était désormais leur terre. On avait beau rouspéter en criant et en priant, on n'avait pas de drapeau, donc fallait se taire. Et comment prier? Comment prier? Ils ont sorti une Bible. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Et quand on a rouvert les yeux, nous avions leur Bible en main. Et dans leurs mains, ils avaient notre terre. Va falloir jeter un coup d'œil sur Mama Congo. Va falloir redorer son blason des terres promises. Va falloir reprendre notre terre, même en gardant la vie. Car celle-ci nous apprend l'amour du prochain. Aimer le Congo, c'est bien être capable d'aimer le Congolais. Faire du bonheur de l'autre, la priorité de notre propre bonheur.
On dit Jennifer, c'est anglais. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis professeur de philosophie.
Et moi, je suis coiffeuse.
C'est pas un truc d'intello, la philosophie. C'est pas de la masturbation intellectuelle. C'est un sport de combat. C'est la meilleure façon de pas se laisser manipuler.
Je sais pas ce que ça raconte, mais c'est avec Jennifer Aniston.
Franchement, je vois pas qui c'est.
Vous voyez pas qui c'est, Jennifer Aniston? Mais dans quel monde vous vivez, Clément? De toute façon, je suis sûre qu'on n'a pas les mêmes goûts.
Pas du tout. Alors, le film qui nous intéresse aujourd'hui, il s'appelle Pas son genre. Il est signé Lucas Bellevaux, d'après un roman de Philippe Villain. Et a priori, ce n'est en effet pas trop son genre à Lucas Bellevaux, qui nous a habitués à des films plus rugueux, comme Rapt ou 38 témoins. Sauf que ce qui s'annonce comme une comédie romantique entre Mademoiselle Groseille et Monsieur Le Quesnoy s'avère rapidement ne pas être un long fleuve tranquille. Oui, je fais des jeux de mots aujourd'hui. Avec beaucoup de finesse derrière les clichés, Bellevaux nous parle en fait de la lutte des classes et de l'infranchissabilité de certains fossés culturels. Il nous parle aussi du mépris, du jugement d'autrui et de la difficulté de ne pas enfermer l'autre dans ce qu'on voudrait qu'il soit, de l'amour tout court en fait, à travers l'histoire de Jennifer, c'est important de le prononcer comme ça, coiffeuse à Arras. C'est Émilie Dequesne qui trouve ici vraiment le rôle de sa vie, je crois.
Oh, est-ce qu'on n'a pas dit ça pour tous ces films for vacances? Ça,
on y revient.
C'est bien l'expression énervante.
Ah bah alors, je ne retire pas, moi je trouve que c'est le rôle de sa vie. Voilà. Jennifer et Clément prof de philo hyper parisien, qui est joué par Loïc Corbery de la Comédie Française. Je ne sais pas si c'est le rôle de sa vie, puisque je ne l'avais pas vu avant.
A priori, donc.
Alors, Jennifer adore les films avec Jennifer Aniston. Lui, il ne sait même pas qui c'est. Pas son genre, c'est la chronique d'un crash annoncé. Et contrairement aux apparences, ce n'est pas vraiment un film d'avion. Alors, honneur à l'invité. Balogi, est-ce que tu as aimé ce film? Qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Oui, j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que je peux dire sur
rôle
ce
de
film?
Sa vie?
Rôle de sa vie, je ne sais pas. Ouais, ouais. En même temps, j'ai envie de te dire que oui, parce que je trouve qu'elle réussit un exercice qui est assez périlleux. Genre, elle chante « I will survive » dans le cadre d'une rupture, ouais. Et qu'elle arrive à nous émouvoir, je trouve, et de façon, et elle est extrêmement convaincante. Je trouve que, en fait, c'est un film qui a deux versants. Il y a un premier versant que je trouve assez cliché,
ouais,
de la comédie romantique américaine comme on en connaît d'état, où je trouve que la façon dont le philosophe est présenté est vraiment caricaturale. Genre, le mec.
Tu connais pas comme ça.
Je pense que c'est un peu too much. Je pense qu'en 2014, un intellectuel ne va pas juste au café de Flore. Enfin, je trouve que c'est vraiment.
Depuis que tu fréquentes Paris, t'en as pas un qui t'a récité du Kant quand même?
Non, pas vraiment. Non, oui. Il me reste plutôt Voici et Public.
Puis voilà, puis rien que ça, quoi. Le type qui écrit des ouvrages sur sa liberté sexuelle et qui lit de la littérature après ses rapports, je trouve ça un peu too much. Donc il y a ce côté-là qui est vraiment assez binaire dans le film. Et de l'autre côté, je trouve que vraiment Émilie Dequesne, elle est juste extraordinaire et elle porte le film par son charisme, par ce côté faussement naïf qu'elle amène au film, à appeler ce mec mon petit chaton à chaque fois. Sans que ça ne sonne faux, sans que ce soit surjoué, sans que ce soit... Ouais, je trouve qu'elle fait une performance qui est assez exceptionnelle.
Mais est-ce qu'elle est comme ça dans la vraie vie ou pas? Parce qu'on se pose la question.
Moi, je la connais un peu. Voilà. Donc, j'ai eu la chance de faire partie d'un jury court-métrage avec elle pour le FIF, Festival de films de Namur. Et je l'ai toujours trouvée une actrice très moyenne, en fait.
Mais
je trouve qu'ici, elle me rassure dans le sens où ce qui fait une bonne actrice, c'est un bon réalisateur. C'est un réalisateur qui aime son actrice, qui a envie de la mettre en lumière. Et là, il y arrive fantastiquement bien. Donc, bon film pour moi.
Olivier, toi, le rôle de sa vie, ça t'agace parce que tu l'as trop entendu?
Si je réponds, il y a deux manières de répondre à ce que j'ai pensé de ce film. Si je suis de manière tout à fait honnête, j'ai passé 2 heures assez pénibles. Très poussif, très dur. Il y a des moments où j'étais presque mal à l'aise. La scène du I Will Survive où... C'est vraiment le principe de sourtitrer avec ce que raconte. Ce
mais
que
elle, raconte s'en sort.
Elle s'en sort. Elle s'en sort. Ça n'a rien à voir avec elle. C'est plutôt sur la construction, sur. Voilà, c'était des moments un peu poussifs. Mais à côté de ça, effectivement, moi, j'ai beaucoup de tendresse. Et pour le cinéma de Bellevaux, que j'aime beaucoup, il a vraiment sa patte, sa manière de diriger les acteurs. Il y a des bons moments de cinéma dedans. Mais c'est vrai qu'on balance entre la comédie romantique, hein, tu l'as dit, bourré de clichés, vraiment bourré de clichés.
Mais c'est, pour une comédie romantique, c'est quand même très, très
mais,
dur. Hein.
Mais la première partie est vraiment fort comme ça, vraiment voilà. Très binaire en effet, avec le Parisien ultra-parisien qui a peur d'aller en province, qui voit ça comme un exil. Comme
mais ces gens existent, hein, et cette fille existe aussi,
ouais,
moi je les connais tous les deux.
Est-ce qu'il n'y a pas des coiffeuses qui peuvent aimer un peu de philosophie, ou des types qui donnent des cours de philosophie et qui peuvent aimer des films avec Jennifer Aniston? J'espère que non.
Même son rapport à la philosophie est au finalement très philosophique, je trouve.
Ouais, mais en fait, c'est ça. Moi, c'est pas que j'ai un problème avec ce film. J'ai l'impression qu'il y a deux sujets qui s'entrechoquent. Est-ce que c'est un film un peu sur les classes sociales, comme on en a vu beaucoup, comme il est romantique, qui joue sur la femme de chambre et le patron, ou est-ce que c'est un film sur l'impossibilité d'aimer? Je trouvais que ce sujet-là, je trouve le personnage... On parle beaucoup d'Emily Deakin, mais je trouve que le personnage du gars est très intéressant, parce que j'ai l'impression que c'est un personnage qui a plutôt, indépendamment de sa classe sociale, de sa culture, et dans l'impossibilité d'exprimer son amour, de se laisser aller une vie de couple, de se lâcher, ce qui, je pense, est le cas sans doute de beaucoup d'hommes. Et il y avait un sujet comme ça dedans, c'était pas la peine de rajouter une couche entre la coiffeuse et le Parisien plus parigot que les autres avec plein de clichés.
Mais ça tient aussi à ça, à sa condition justement de Parisien intellectuel.
Il semble que
le
roman est plus axé sur cette lecture-là.
C'est uniquement le point de vue de Clément apparemment, le roman.
C'est ça.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Olivier, parce que je trouve que la fracture culturelle est vraiment le thème central, même plus que la fracture sociale, le thème central du film. À savoir que, et c'est peut-être le bémol que je mettrais au film, c'est qu'il insiste un peu trop sur l'origine sociale du prof, avec des parents, je crois, chirurgiens.
Oui, les parents sont très pénibles.
Voilà, ça, pour moi, c'est inutile, parce que ça aurait été plus intéressant de montrer justement un étudiant sans le sou, qui a les mêmes repères culturels que celui-ci et qui débarque dans cet univers. Ça aurait été un choc encore plus fort parce que finalement, socialement, ils auraient pu venir de la même origine. Et ici, je trouve que c'est la culture, la différence de bagage culturel, de référence, Jennifer Aniston pour l'un, un philosophe et autre de l'autre côté, qui les divise, qui les sépare et qui va rendre leur amour malgré leur sincérité, parce que c'est ça aussi qui est fort dans le film, c'est qu'ils restent tous les deux sincères jusqu'au bout, impossible. Et je trouve que dans les deux parties, le premier volet, moi, c'est comédie romantique, mais ce qui, moi, m'a plu, c'est que ça me fait plus penser à du Jacques Demy, les Demoiselles de Rochefort, plus qu'aux comédies américaines. Je trouve que le côté léger avec la musique, ça devient presque une comédie musicale pour moments, même si c'est du karaoké, mais bon, c'est elle qui chante et tout. Et puis le deuxième volet, beaucoup plus sombre, où on retrouve le Bellevaux qu'on connaît avec la critique en toile de fond, avec un ton finalement assez grinçant. C'est une fable assez cruelle au final.
Oui. La fin est très belle.
Voilà, c'est ça.
Tout le film, je trouve, là, la fin est effectivement très forte.
Mais moi, je trouve ça cruel de bout en bout et très lourd et très, très stressant, en fait, parce qu'on sait qu'elle va se manger un mur à un moment donné.
Il y a cette scène comme charnière où ils se rendent ensemble dans une boîte avec les copines d'Emily Deakin. Elle se retrouve sur la scène en train de chanter
Life is Life.
Elle va forcément à un moment tirer comment il s'appelle,
Clément.
Et lui demander de chanter avec. Voilà. Et on voit bien que ça lui fait mal, quoi, de
mais
chanter.
Et
quand il s'y met, il prend un plaisir, il le fait mimique comme ça. On sent que c'est presque la rage qui sort.
La douleur.
Si c'est de la douleur. On ne sait pas si c'est de la douleur ou de la haine envers l'autre classe sociale.
C'est ça qui est intéressant, je trouve.
Il se fait souffrance.
Il y a des moments comme ça où on t'amène danser sur un truc sur lequel tu n'as pas envie de danser.
Ah oui,
complètement.
Il se fait souffrance, mais il prend quand même un certain plaisir. C'est le petit moment où il sort un peu de sa tour d'ivoire et il découvre qu'il peut prendre aussi du plaisir à être dans cette simplicité, à profiter de l'instant présent.
Il a un rictus qui est tout sauf un rictus de plaisir, qui est plutôt un rictus quasi démoniaque.
Oui, c'est
comme ça.
Pour moi, il est en safari. Et
parce que c'est parce qu'il est, il est dans son personnage, mais on sent quand même qu'il s'est un peu lâché, qu'il a... C'est une soirée qu'il redoutait, et finalement, il en sort quand même avec quelque chose dans le ventre. Et, mais ça n'ira pas plus loin. Et c'est ça, que là, il y a trop de barrières qui les séparent. Mais il y a quand même une tentative, un moment de rapprochement. Il y a de l'électricité, des étincelles qui se font. Mais ils sont chacun rendus à leurs conditions, avec une Emily Deakin qui sauve quand même la face de belle façon à la fin, sans vouloir spoiler. Mais elle s'en sort. Enfin, je veux dire... C'est ça qui est triste aussi, c'est que tous les deux arrivent à ce constat, cette impossibilité, mais tous les deux, il n'y a pas un gagnant et un perdant dans l'histoire, comme c'est souvent le cas dans les approches un peu plus clichés.
Mm-hmm, c'est vrai.
En tout cas, pour finir sur le rôle de sa vie, moi j'avais gardé un bon souvenir d'un film qui s'appelait Femme de chambre de Claude Berry, qui est au début de la carrière d'Emily Deakin, qui est un peu sur le même sujet. Hein. On en parlait avec Bakri qui est... Voilà, elle est femme de chambre et lui est patron, fat cadre. Donc sur ce sujet-là, dans mon souvenir, le film était plus fort sur cette relation-là et j'avais passé un bon moment, contrairement à celui-ci où ce fut pénible.
Ok. Moi, la personne qui m'a accompagnée au cinéma a trouvé ça très pénible aussi, mais je crois que ça tenait surtout au personnage d'Emily Deakin, qui est quand même relativement insupportable. Quoi.
Qui minaude énormément
et qui est de tous les plans.
Très littéraire, quoi, je trouve, par moment. Bien sûr.
Elle est très bien, mais elle est très là, quoi.
Son 18e chaton, à un moment, t'as envie de partir, parce que c'est insupportable.
Oui, mais rends-toi compte.
Ça fait partie du truc.
Et c'est le côté théâtral du cinéma de Belvaux aussi, qui a déjà, par exemple, dans 38 témoins, il y a des passages, on a vraiment l'impression d'être devant une scène avec des acteurs en live, avec des décors un peu faux, comme ça. Et ici, il joue là-dessus aussi, c'est ce petit décalage qui fait partie un peu de son univers. Moi, je trouve assez plaisant, mais...
Bon, alors le petit exercice obligatoire, c'est de donner une note à ce film. Moi, je l'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment pas trouvé que c'était une comédie romantique, plutôt quelque chose d'assez plombant, en fait, et questionnant. 8 sur 10, parce que je me suis fait U, comme on dit. Balogi.
Pour moi, un 7.
Un 7, ouais. Le chef.
Ouais, pareil.
Olivier.
Bon, je reste logique, un 6.
Et Laurent. À noter que Louis Danvers, dans le magazine, écrit ces trois mots à propos de ce film: sublime, rare et fascinant. Merci, Louis. Lâché leur nouvel album Turn Blue, très attendu, comme toujours. Un premier single dévoilé il y a quelques semaines avait laissé la critique et les fans bien embêtés. Fever sonnait très pop, très FM, alors que c'est le son poisseux d'arrière-garage qui faisait jadis tout le cachet des Black Keys. Eh bien, le groupe de Dan Auerbach n'en a visiblement cure d'être là où on l'attend. Il a accouché d'un disque beaucoup moins rock que prévu, plutôt taillé pour les radios jeunes. Certains disent que les Black Keys sont morts et qu'il faut les enterrer. Personnellement, je leur conseillerais plutôt des petites vacances, histoire de retrouver un peu de jus, parce que, pour le coup, Turn Blue ne retourne rien du tout. Laurent Brex, toi qui aimes toujours te faire l'avocat du diable, j'imagine que tu vas évidemment défendre ce disque.
Absolument.
Oui, alors vas-y. Peut-être... Ah ben voilà.
peut-être pas leur disque, ce disque-ci en particulier, qui c'est vraiment moi dans lequel je suis moins entré, mais le groupe en général a quand même une démarche qui reste intéressante.
Mm-hmm.
je peux expliquer pourquoi.
Oui, vas-y, nous en plus.
Non, non, mais c'est toute l'histoire du truc, ces mecs, ils sont là depuis les années... Enfin, ils ont sorti 6 albums avant qu'il y en ait un qui fonctionne vraiment et qui commence à cartonner, c'était Brothers. Avec... Après, il y a eu El Camino qui a encore mieux marché. Je sais qu'ils avaient ce single Lonely Boy qui a tellement cartonné qu'à vraiment, ils ont même demandé à leur maison de disques d'arrêter de le promotionner dans les radios. Enfin,
il
n'y
a
bon,
plus besoin, il y a tellement de pubs qui passent à leur
maison. Voilà, exactement. Donc il y a ce côté attachant, ce côté survivant, les mecs qui sont passés à travers tout et qui au final ont quand même réussi à trouver leur voie et leur chemin. La deuxième chose que je trouve attachant dans ce groupe, c'est que ils sont arrivés dans le début des années 2000 avec toute cette vague comme ça de groupes, ce retour au rock un peu dur, un peu retour au blues, enfin toutes ces racines là. Ils ont réussi un peu à, contrairement à beaucoup d'autres de ces groupes des années 2000, à un peu prendre ça pour en faire autre chose, quoi, pour l'amener ailleurs et pour, je trouve, rester dans un format rock blues assez authentique, originel. Et en même temps, proposer autre chose, quoi. Proposer un autre format qui, aujourd'hui, fait que bah, ça peut plaire aux gens également qui n'aiment pas le rock. Il y a plus grand monde qui aime le rock aujourd'hui. Tout le monde écoute, je sais pas moi, David Guetta ou Kanye West. Et bah, ces mecs, ils sont encore capables de faire des disques qui plaisent justement à des gamins qui n'ont absolument plus rien à foutre des guitares et qui sont juste devant leur PC en train de composer des trucs.
D'accord, on a bien entendu, mais alors ce disque-là...
Ce disque-là, c'est clairement la prolongation de cet état d'esprit-là, c'est qu'il reste en effet toujours sur ce truc rock de basse, malgré tout leurs racines. Alors après, il dilue ça dans un truc, c'est toujours produit par Danger Mouse, donc...
c'est le même son, hein, quand même.
Voilà. Qui ici, je trouve, sa patte commence à devenir vraiment lourde. Il amène des tas de tics de production qui pour moi sont pas nécessaires. À un moment, ils diluent vraiment trop leur truc dans ce disque. En plus, voilà, autant El Camino, c'était des chansons très straight to the point, on y va, 3 minutes, hop hop, et puis on remballe tout. Ici, c'est beaucoup plus... Il y a une chanson de 7 minutes qui est peut-être la meilleure de l'album, mais voilà, les autres aussi, comme ça, s'étirent. C'est beaucoup plus... mélancolique, on va dire.
Oui, ça parle de rupture, apparemment, de divorce.
Donc, ce qui fait que, pour moi, en effet, ça perd un peu de son sel, et je trouve qu'ils sont allés un peu trop loin dans ce truc, mais je trouve qu'il faut malgré tout saluer ces démarches qui est de dire « Ok, on fait du rock aujourd'hui, mais on le met un peu à... » On se complaît pas dans ce truc rock. Pour que ça soit authentique, il faut faire du rock vintage, 70s, à la White Stripes, à la... C'est-à-dire très drôle, je sais pas si vous avez entendu... cette affaire avec Jack White qui, au moment de son divorce avec sa femme, on lui envoyait des mails en disant « Surtout, je refuse qu'on mette mes enfants dans la même école que ceux d'un Auerbach et pas Carnet parce que ces mecs sont des vraies tâches et ils m'ont copié tout mon son. » Et il y a une espèce de petite guéguerre comme ça et je trouve que...
Entre les deux pas... Ah oui, je sais pas.
Ouais, je pense que... En tout cas, Jack White n'apprécie pas. Non, jamais...
Ça visite les mêmes
thèmes. Énormément apprécié les Black Keys.
Mais moi,
je trouve où
les Black Keys sont plus inventifs que The White Stripes, c'est qu'ils partent d'une formation duo où ils ont fait, je pense, pour moi, leur meilleur album, The Potion, où on est vraiment très resserré, stoner. Blue Stoner, et ils se sont donné beaucoup de liberté sur les disques comme Brother, comme El Camino, justement. Ça, c'est une chose. Moi, je pense que la faille de ce disque, c'est d'arriver en bout de cycle où ils ont, sur les 5 dernières années, produit ou réalisé une quinzaine d'albums. Donc, à un moment, tu te poses la question de comment tu fais le tri entre les chansons qui sont pour toi ou pour Valérie June ou pour XYZ, c'est compliqué. Et donc c'est pour ça que l'album est un peu éclaté, c'est pour ça que je pense qu'un mec comme Danger Mouse joue un rôle plus prédominant que dans les albums précédents aussi.
Et pour la première fois aussi, c'est vraiment le genre de détail dont d'habitude moi je me fous complètement, mais ils ont été enregistrés à Los Angeles, c'était la première fois qu'ils sortaient un peu de leur province, entre guillemets.
Ils viennent d'où?
Akron.
Pour l'instant, mais avant c'était...
Ouais, Akron,
dans l'Ohio.
Ça fait un peu penser à ça. J'ai l'impression qu'ils sont passés d'un rock un peu industriel à un rock plus californien. Ils ont ensoleillé un peu avec un côté psychédélique et tout ça, un peu rock progressif sur certains morceaux. Il y a vraiment un changement géographique dans la texture et dans le son.
Oui, puis je trouve aussi, en effet, et du coup, ils arrivent avec des trucs qui sont parfois... Ouais, des coquetteries, des trucs qui, moi, me font que je me détache du disque, quoi. C'est pas un mauvais disque, mais il a plus grand-chose de très passionnant.
Je vais demander à Balogi, parce que c'est quand même une des grosses questions qui revient ici sur cet album-ci, c'est est-ce qu'on continue à faire la même chose parce que ça marche avec El Camino et tout, le rock âpre et sec comme un whisky. Et eux le disent clairement, on n'avait pas envie de se répéter. Donc, s'il n'y a pas 36 options, c'est soit on continue sur la même veine, soit on change vraiment. Toi, tu dois être confronté à ce genre de questionnement aussi. Et comment est-ce qu'on gère ça aujourd'hui avec.
Je pense que c'est justement un groupe qui s'octroie beaucoup de liberté. Mm-hmm. Je trouve que c'est vraiment admirable. Et après, il y a des morceaux, je trouve, qui ont quelque chose de très intéressant. J'ai d'ailleurs noté, il y a un morceau qui sonne comme du MGMT, Fever, fait par un autre groupe, mais je trouve que c'est le meilleur MGMT que j'ai entendu depuis leur premier album. Et donc ça, je trouve ça louable. Après, il y a aussi, je pense, un truc qui est très particulier, qui est difficile à pouvoir... pointé, c'est que je pense que c'est la date de sortie de l'album. C'est que ça arrive à une période où il y a énormément de choses et qu'en soi, c'est pas un mauvais disque. C'est juste qu'il arrive à une époque où ils sont pas attendus, où c'est pas dans l'air du temps, ce genre de production. Mais en soi, c'est pas du tout un mauvais disque.
C'est pas un mauvais disque, mais tu sais, tu l'écoutes trois fois et tu sais que tu vas pas le retenir dans ton top de fin d'année. Alors ouais, c'était leur ambition non plus.
Parce qu'on a beaucoup de choses à écouter, je pense, mais je pense que c'est un disque qui est vraiment dans la lignée de Oh Brothers et qui est une espèce de suite indirecte et que je trouve assez cohérent. Et en même temps, c'est un disque de rupture où justement il va peut-être pas assez loin dans cette idée de rupture en fait. Il en fait plutôt une balade R&B très californienne.
Mm-hmm. Olivier, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce disque?
Non, tout a été dit au niveau... Moi aussi, j'ai beaucoup aimé les albums précédents. Effectivement, avec celui-ci, je me demande si j'ai encore besoin d'un album des Black Keys. J'ai l'impression que voilà, j'ai fait le tour de ce cycle-là. Tu parlais de cycle tout à l'heure. Même si c'est différent, qu'ils vont vers une pop plus californienne, etc. On reste quand même dans cette ambiance-là. Je ne suis pas sûr que c'est le disque aujourd'hui que j'ai envie d'écouter. Après, il faut quand même se rappeler que c'est un groupe extrêmement bien marketé aussi, qui a été du succès aussi par la pub, par la génération YouTube, par des choses comme ça. Si j'ai bien lu ici, pour l'anecdote, le disque était annoncé sur le Twitter de Mike Tyson.
Pourquoi ? Parce que Mike Tyson leur avait demandé une musique pour son documentaire, et donc du coup, il y avait un lien qui s'était fait. Voilà, c'était pas complètement non plus artificiel. Bon,
okay. Donc je retire la moitié de ce que j'allais dire.
Mais c'est un groupe très intègre. Hein.
Mais il y a un sens très marketing. Enfin, ils ont quand même été surexploités par le commerce et par la publicité ces dernières années. Ça a presque tué, je trouve, le son du groupe parce qu'à un moment, on l'a trop entendu.
C'est leur côté un peu working class. Nous, on est juste là des petits artisans, entre guillemets. Et si pour gagner notre pain, il faut vendre notre musique à la pub, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui.
Mais Laurent, tu as déjà rencontré Dana Wurbeck et tu disais sur l'album précédent qu'il n'avait pas grand chose à dire, qu'il ne se posait pas finalement beaucoup de questions sur ce qu'il faisait, et puis c'est tout, quoi.
Je crois que c'était en partie une posture, mais qu'en partie, il y a vraiment un manque de, ou une absence de prétention, entre guillemets, et donc qui fait que c'est tout à fait acceptable de vendre une musique pour une pub. Allez-y, tenter que cette pub correspond malgré un minimum. Enfin voilà, je pense que.
Et pour ceux qui trouvent que les Black Keys se sont perdus et qui cherchent un succès d'année, un ersatz, qui peut prendre la relève? À une époque, on aurait pu penser à Aniel Katib. Je ne sais pas si c'est encore le cas parce que je n'ai pas écouté ce qu'il a fait dernièrement.
Oui, c'est vrai, c'est un bon exemple.
Dans le genre garage. Moi j'aime bien les Eagles of Death Metal, mais ça n'a rien à voir.
Moi j'aime bien Justin Timberlake, mais
c'est un groupe qui peut plaire aux fans de Justin Timberlake.
C'est
alors
vrai.
Bon, les fans de rock vont s'arracher les cheveux avec ça, mais si on aime le rock, en effet on ne pourra pas se satisfaire des Black Keys, mais ça reste une chouette porte d'entrée.
Je voulais juste demander à Balot, toi dans ce qui sort actuellement, qu'est-ce qui t'excite pour le moment? Il y a des choses qui t'ont...
Plein de choses.
Bonne époque, tu trouves?
Ouais, je trouve que c'est une époque très riche. Après, le problème, c'est le format. Mmh. C'est-à-dire que le format album est en train de se diluer, vu la façon dont les gens écoutent la musique, mais purement en single, je pense entre du R&B, de l'électro R&B, de la soul, du rap, beaucoup de funk, je trouve qu'il se passe énormément de choses.
Mmh.
Je trouve que c'est une période super riche. J'avais pris plein de notes.
Il a bossé mieux que nous, c'est pas des recherches.
Ouais, j'ai beaucoup aimé un Suédois ou Norvégien. Tu me corriges
si je me trompe. Norvégien, je crois.
Todd Terje.
Oui, oui, tout à fait.
Je trouve ça très très bien, vraiment brillant. Et j'aime beaucoup le disque de Like Kelly. Et je faisais un parallèle très très étrange avec celui des Black Keys, mais je trouve qu'elle gère mieux sa rupture en fait musicalement. Mmh. Je trouve que ce qu'elle en ressort est beaucoup plus incarné.
Mmh. C'est vrai. Je suis d'accord.
Et Torje, c'est quoi?
C'est un producteur sudain et c'est vraiment bien.
D'accord. Et
c'est une espèce de...
Ça se définirait comment?
Soul électro, assez sexy, je trouve bien. Ouais.
Bon, bah, si vous avez ce l'oreille...
Genre, en parlant de Justin Timberlake, ce serait genre le producteur idéal pour un Justin Timberlake.
Oh, et ça s'écrit comment ça? Parce que je vais aller googler.
Voilà.
T-O...
T-O-W-D... T-R-G-E.
Voilà, c'est noté. Alors, pour en revenir à Turn Blue, moi je mettrais 6 sur 10 à cet album.
Pareil, 6 sur 10.
Moi, ouais, j'en reste à 5.
Et Olivier ?
Je mettrais un 6 à moitié, voilà, 6.
On a mis un 6 dans le magazine.
Parce que c'est toi qui signes la chronique.
C'est vrai. Aussi.
Achetez le magazine, lisez-le.
So you're asking me to kill this man?
No, I was joking.
Yes or no? Let him know you're still an ape.
Hubba bubba.
Dead man in frozen panties.
Watching our P's and Q's.
Squint in.
Sorry, just bronzed.
Oh, jeez.
It's blackmail.
That's a pretty specific number.
Fargo, an FX original series, tonight at 10.
Fargo, c'était le nom d'un film des frères Coen et c'est désormais aussi celui d'une série inspirée du film coproduite de très loin apparemment par les frères et diffusée depuis un gros mois sur FX. En préambule, un bandeau nous informe tout comme dans le film que ceci est une histoire vraie, que par respect pour les survivants les noms ont été changés et que par respect pour les morts les événements sont retracés exactement comme ils se sont déroulés.
Oui, mais...
Ce dont je doute quand même. Oui,
je te coupe, mais souvenez-vous du film, il y a un autre générique qui apparaît à la fin du film de Fargo.
Wow.
Voilà, il faut revoir le film pour se souvenir de la bande qui passe à la fin.
Il a carrément revu le film.
T'as revu le film, toi ?
Mais je connais bien le film. J'ai
ah, on a un fan. Bon, donc ici, ça se passe en 2006 dans le Minnesota à Bemidji, où un hors-la-loi à grosse frange joué par Billy Bob Thornton va influencer la population locale, notamment Lester Nygaard, un petit employé de compagnie d'assurance habitué à subir sa vie, sa femme, son job et les brimades de ses anciens camarades de classe. Ce loser pas du tout magnifique, c'est Martin Freeman qui est une fois de plus totalement génial. Hein, c'est le docteur Watson de Sherlock, qui est déjà très bien.
Et un Hobbit.
Ah, ouais. Oui, le Hobbit, c'est vrai. Et qui joue aussi un acteur porno dans Love Actually, pour les plus aventureux.
C'est difficile à l'imaginer, un acteur porno.
Oui, oui. D'où bon, je vous en dévoilerai pas plus pour ne pas spoiler. Je vous dirai seulement que j'ai trouvé ce Fargo complètement jouissif, drôle, délirant, délicieusement noir. C'est vraiment, vraiment du cinéma pour la télé, avec le soin, l'écriture, le casting et les moyens du cinéma. J'ai adoré. Est-ce que c'est aussi ton cas, Laurent Raphaël, le chef?
Ah oui, je suis fan. Bah, c'était typiquement le genre de projet assez casse-gueule.
Oui, on t'attendait pas
à
ce que ça.
On connaît l'univers des frères Coen, très particulier, grinçant, avec de l'humour, à froid. Avec, voilà. Et donc, se mettre dans leur peau pour créer une espèce de spin-off comme ça du film qui n'est pas ni une suite, ni un préquel, ni il a repris des ingrédients du film. Certains personnages, mais il les retravaille. On retrouve le bled, on retrouve le loser, on retrouve les deux mauvais, on retrouve la femme flic un peu à côté de ses pompes, mais pas tant que ça. Ben voilà, donc les personnages, les ingrédients sont là, et il aurait pu vraiment se planter, la sauce aurait pu être très immangeable, et il arrive à faire du Coen sans les Coen, puisque comme tu disais, ils sont producteurs, mais apparemment ne sont pas du tout intervenus directement dans le scénario, etc. Bon, je doute qu'ils ont eu un œil quand même sur l'histoire, mais enfin, ils ont dû cautionner. Voilà, ils ont cautionné sans doute moralement l'affaire. Et voilà, c'est jouissif parce qu'il y a de l'humour, on retrouve ce côté un peu absurde dans certaines scènes. Et avec ce pitch qui est l'arc narratif de la série, c'est tout le bonheur de voir quelqu'un qui est dans la pleine normalité, voire dans l'ennui du quotidien, devenir tout d'un coup une espèce de laisser sa sauvagerie parler et puis devoir porter le fardeau de cette culpabilité d'avoir entrouvert la porte du démon. Et ça, c'est évidemment un bonheur, surtout quand c'est porté par un acteur comme
Martin Freeman
qui a tout à fait la tête de l'emploi, comme d'ailleurs tous les autres, comme soit les méchants, le sourd muet, etc. Enfin, il y a vraiment des personnages jouissifs dans l'histoire.
Le langage des signes,
c'est terrible.
C'est du Florent Pagny, quoi.
Quatrième épisode, je crois, quand il s'engueule.
Puis moi, il y a un truc que je trouve intéressant dans cette série, c'est que je pense que les Américains appellent ça une limited series.
Ouais.
Et je trouve ça un point vraiment intéressant. C'est que
des séries d'anthologie, c'est ça?
Ouais. Ouais, avec un début, une fin, et il n'y aura pas de saison 2.
Ouais, 10 épisodes.
Et je trouve que ça fait du bien, en fait.
Ah oui.
Ce que j'ai vu, genre House of Cards, la saison 2, était un peu déçu. Et tu te dis que ce serait bien s'ils étaient restés sur une série.
Et ça, c'est relativement nouveau, parce qu'il y a True Detective.
Mais de plus en plus, il y a des formats comme deuxième, ça, on a déjà parlé ici.
Mais avec d'autres acteurs et une autre histoire.
Voilà. Ouais. Et apparemment, ce sera le cas ici aussi. S'il y a une saison 2, ce serait...
Il ferait une saison 2.
Bah, en tout cas, la porte n'a pas l'air fermée.
Oui, mais avec
d'après
aussi
un autre
des
film des frères Coen, ce serait peut-être plus Fargo. Je ne sais pas lequel, mais... Qui veut enchaîner? Parce que bon, le chef a tout dit, il a très bien dit.
Je trouve que c'est... Il y a ces allusions à la Bible qui sont importantes aussi, qui font partie de cette métaphysique des Coen, et qui, tant dans le chef des bons personnages, entre guillemets, qui sont toujours un peu borderline, que dans le chef des mauvais, qui ont toujours une culpabilité qui les ronge et tout, ils sont très très forts. Et la manière dont ils intègrent, parce que tu passes... On a la scène de la douche d'Hitchcock, mais non, on a la scène de la douche de la série Fargo.
Inoubliable.
Donc, voilà.
Bon, alors Olivier, toi, tu avais quelques petites réserves en tant que grand fan de Fargo,
On peut chipoter. Effectivement, c'est une série qui est meilleure que plein de productions actuelles et qu'il faut vraiment le coup d'être vu et il faut pousser les gens à la voir. Effectivement, si le film Fargo des Coen, comme Big Lebowski, comme quelques autres qu'ils ont pu faire, font partie de vos films cultes, forcément, on va jouer le jeu des références souvent. Et au jeu des références, il y a toujours un petit côté, c'est super, mais un peu moins bien que le film. L'actrice, c'est pas Frances McDormand. Voilà,
elle est terrible quand même.
Elle est parfaite. Ouais. Dans le film, c'était William H. Macy qui jouait le type un peu con, qui subit tout, mais qui en fait se prend dans l'engrenage. Je le trouve un peu meilleur que Freeman, qui pour moi est un peu trop anglais, un peu trop Sherlock.
C'est un peu dogmatique tout ça.
Voilà, c'est ce que j'ai ressenti, mais effectivement, ça reste très bon. Il y a plein de références. La musique est superbe.
Ouais.
C'est comme dans le film, je trouve qu'il y a un travail de la bande-son qui est absolument succulent. Il faudrait qu'il sorte ça. Enfin voilà, il y a plein de bonnes choses dedans, on retrouve tout ce qui fait le plaisir du cinéma des Coen. Il joue beaucoup sur le côté stupide des gens, le côté un peu taré des gens, mais finalement leur innocence aussi. Et donc tout leur rapport au personnage est toujours là-dedans. C'est pas des méchants, c'est plus des cons, et la connerie se rapproche de l'innocence. Et donc il y a toujours ce jeu comme ça. Et puis parfois on chute dans la violence vraiment très forte. On retrouve aussi le cinéma des Coen là qui peut être extrêmement violent, extrêmement brutal, extrêmement fort. La fin du premier épisode, pour ça, on bascule dans autre chose. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut le conseiller à tout le monde. Je voulais dire, pour être complet, étaler un peu de culture comme la confiture, que le producteur, et qui écrit en fait cette série, s'appelle Noah Hawley. Et donc le nom me rappelait quelque chose, puisqu'on avait chroniqué son bouquin il y a un an ou deux, qui est en fait à la base un écrivain.
C'est pas celui qui a fait Bones?
Si.
Oui, voilà, c'est il a ça. Participé à ça. Et ici, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus premier degré. Ça s'appelait Le Bon Père, c'est sorti à la série noire. Et voilà, donc c'est quelqu'un dont on va sans doute encore entendre parler, parce que visiblement, ce monsieur a un gros potentiel. Et je trouve que s'inspirer de l'univers des Coen comme il l'a fait, et garder ces petites touches qui fonctionnent, voilà, c'est merveilleux. Comme tu disais, le couple de méchants sourds muets, c'est parfait, quoi. C'est juste parfait. Dès qu'ils arrivent dans le deuxième épisode,
c'est un moment de magie. Et puis surtout, ça va en direction opposée des séries actuelles. C'est-à-dire que quand tu vois le premier épisode, tu as l'impression que le bon flic va être le héros prépondérant de la série. Ça ne va pas être le cas. Tu as l'impression que la fliquette un peu rondouillette va être un personnage secondaire, or que c'est elle qui lead le truc. Et je trouve ça vraiment... je trouve qu'il y a beaucoup de finesse dans les mauvais.
Oui.
Mais il faut dire un mot sur Billy Bob Thornton qui donne le crédit Coen, qui fait partie de la troupe des Coen.
Qui est juste extraordinaire.
Et qui est parfait dans ce rôle-là qu'on n'avait plus vu depuis très longtemps. et qui peut à la fois jouer, enfin d'ailleurs il le fait dans la série, le petit type dont personne n'a peur et qui fait le petit vieux.
Oui,
et
qui change d'apparence en permanence. Oui. Voilà. Et qui a une frange, mes aïeux.
Il y a quelque chose dans les cheveux, c'est du
comment
Bruce
cacher
Willis
la calvitie.
Oui, c'est vraiment broché à la brosse ronde. Quoi. Laurent, toi tu es un peu déçu parce que tu croyais voir une série qui parlait de Argo, le film.
Tu dis, il va y avoir des terroristes, des trucs en Iran et
c'est
tout ça, une ambiance
un
peu 70s.
Et alors, oui, non.
Et puis, je comprenais pas le lien, je me dis, d'accord, c'est une adaptation, mais enfin, quand même.
Oui, c'est vrai, au niveau des cheveux, ouais, un peu.
Donc, ouais, non, moi, je sais pas quoi rajouter. Non, c'est assez jouissif comme série, oui. Tous les personnages sont assez drôles à suivre. Même le personnage du. Il y a un moment, il y a un flic qui arrête Billy Bob Thornton.
Le fils de Tom Hanks.
C'est le fils de Tom Hanks,
apparemment, oui.
Quelle culture, je ne savais pas. Mais qui a un vrai rôle dedans, effectivement.
Mm-hmm.
Et qui.
Et il lui ressemble d'ailleurs, hein, maintenant.
Oui, mais donc tu le dis. Ouais.
Et voilà.
Bon, bah, c'est super.
Il y a plein de personnages comme ça. Le frère autiste, il a un beau frère qui est fan des armes.
Oh oui.
Lui aussi, il est
qui parfois
parfait,
fait croire à ses amis que son frère est mort, tellement qu'il est gêné d'avoir un frère pareil.
Et puis les deux gamins aussi.
Voilà, qui sont débiles et on ose. Voilà,
c'est
aussi dans.
Vraiment cool.
Qui se tire le coup de l'arc à flèche dans
ouais,
le
ça, c'est hilarant. C'est ouais. Mais
je crois qu'il serait même possible d'avoir une série comme ça en Belgique parce qu'on a ce terreau un peu glauco, surréaliste. Donc c'est encourageant de voir.
C'est vrai, c'est vrai.
Donc on espère
que nos voeux seront entendus.
Petit édito.
Voilà. C'est déjà fait.
Bon. Moi, je lui mets un bon 8 qui tire vers le 9. Enfin, il faudra voir vers la fin, mais je pense qu'on va atteindre le 9. Hein,
je pense qu'il mérite un 9, ouais.
Ouais.
Je suis curieux de voir combien il boucle la boucle quand même.
Oui, ouais, oui. Bon.
Ouais, moi, je pousse jusqu'à 9 aussi. Je trouve que ça vaut vraiment le coup.
Bah oui, un 9 en sachant qu'on met 11 au film. Donc.
Un 8. Bah, je pense que c'est la série qu'on a le mieux coté depuis le début de cette longue ère d'émission Focus Store, donc courez télécharger légalement Fargo en série, ça passe sur FX aux États-Unis.
Focus Store.
Et enfin, on va terminer les figures imposées avec un roman. Il est de retour par Timur Vermes. Moi, je parle pas allemand. Quelqu'un parle allemand et peut me dire comment ça se prononce?
Timur Vermes.
Vermes. Ok.
Ça doit pas être loin là. La vérité.
C'est un journaliste allemand. Il est de retour, c'est son premier roman. Il est devenu un immense best-seller en Allemagne et sans doute bientôt ailleurs, puisque visiblement il sera traduit en 35 langues. Timur Vermes imagine le retour d'Adolf Hitler qui se réveille 70 ans, je pense.
66.
Voilà, après son suicide supposé sur un terrain vague à Berlin. Tout a changé, sauf que le terreau contemporain semble toujours aussi fertile pour ses idées et les réseaux sociaux lui offrent un boulevard. Alors, j'étais à la fois agacée et fascinée par ce bouquin. Agacée parce que j'en ai vite eu marre des quiproquos permanents, façon un indien dans la ville qui découvre Internet. Mais qu'est-ce que cette machine a écrit ? Oui, c'est ça. Et fascinée aussi parce que l'actualité toute récente en Belgique montre bien qu'il y a toujours un auditoire pour les clowns en politique. Hein. Je dis bien les clowns, pas les bouffons. Les bouffons, c'est bien. Les clowns, c'est un peu différent. Et dans le livre, comme chez nous dans la vraie vie, c'est du grand guignol qu'on nous sert. Olivier Van Varenberg, qui est lecteur professionnel, qu'as-tu pensé de ce bouquin ?
Bah, beaucoup de bien. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre. Et donc, comment le résumer ? C'est un livre dont on va forcément parler. Parce que voilà, ça met Hitler en couverture, ça fait un énorme succès en Allemagne, ça va forcément poser des questions. Les premiers papiers qui sortent là-dessus jouent évidemment sur la polémique. Est-ce qu'on peut rire avec Hitler plutôt que rire de Hitler ?
Parce qu'il est quelque part assez sympathique dans ce livre.
Oui et non, c'est un bouffon. Ce livre est une satire féroce et il faut le lire comme une satire féroce. C'est ce que j'essayais d'expliquer quand j'ai posté la couverture sur Facebook. Je pense que ce bouquin est interdit au QI de moins de 30.
Oui.
Si on est un peu bas de plafond, il ne faut pas lire ce bouquin parce qu'on ne va pas le comprendre.
Ou le prendre au premier degré.
Et le prendre au premier degré, ce qui sera affreux. Puisque l'histoire, effectivement, Hitler revient, il n'y a pas d'explication, il y a hop, une faille spatio-temporelle, il arrive à Berlin aujourd'hui. Et c'est l'occasion de faire une critique vraiment féroce et très cruelle sur la société allemande d'aujourd'hui et sur nos contemporains et sur nous. Ça parle surtout de ça, mais effectivement, on est dans la tête d'Hitler, on est dans le phrasé d'Hitler. Et donc forcément, c'est très touchy sur la manière. Je pense qu'il faut beaucoup de talent pour y arriver. Je pense que l'auteur en a. Mm-hmm. C'est très bien écrit, c'est très malin.
C'est assez délicieux. Hein.
C'est délicieux. J'ai beaucoup ri, j'ai souri pendant toute la lecture du livre. Quand même, j'avais quand même le sourire aux lèvres et un peu gêné aussi.
Mais oui, c'est ça.
Par moments, il évite quand même les questions extrêmement difficiles sur la Shoah, sur la question juive, etc. Il le passe quand même un peu autour. C'est beaucoup concentré sur sa vision de la société, de l'ordre et le regard sur la société. Alors, comme tu dis, c'est c'est un bouffon. Ça se lit vraiment. Donc, il a du succès sur YouTube. Il se fait avoir une émission de télévision qui est produite par un animateur turc. Et la fin du film, la fin du bouquin, pardon, voilà. Parce que ça va devenir un film, ça, évidemment, mm-hmm. déjà été acheté. La fin du bouquin est très forte parce qu'on passe de la satire et de quelque chose de drôle, d'énorme, à quelque chose de beaucoup plus glaçant. Et qui a dû faire grincer des dents, évidemment, en Allemagne, parce qu'on se retrouve sans dévoiler les choses. En gros, il est sous-entendre qu'il pourrait être recruté dans n'importe quel parti politique d'aujourd'hui. Mmh. Il fait intervenir des personnages politiques existants, qui soient le Parti des Verts, le Parti Pirate. Et il y a une démonstration qui est faite que le danger est toujours là. Et donc, on passe de la grosse rigolade à quelque chose de vraiment glaçant, parce qu'effectivement, le terreau de notre société de consommation, de surconsommation, de médias, d'égo trip mmh. complet... donne un terreau très fort pour cette idéologie qui n'en est plus une. C'est ça qui est très fort dans le bouquin. À un moment, il y a une petite scène comme ça où, en fait, pour le dire vite, tout le monde le prend pour un artiste conceptuel qui se fait passer pour Adolf Hitler, puisque lui se dit « je m'appelle Adolf Hitler mmh. ». On le prend pour un artiste et tous les bobos intello trouvent ça extraordinaire. Il dénonce plein de choses. Et à un moment, il fait une sorte d'autographe sur « la fête de la bière ouais, ». Et là, il dessine une swastika. Et là, c'est le scandale. Donc, il y a tout ce jeu de l'imagerie. On peut rire avec un type qui se fait passer pour Adolf Hitler et ce qu'il dit finalement... il y a des choses rigolotes dedans, mais dès qu'on est dans la pure imagerie, c'est-à-dire qu'on ne se rend plus compte de l'idéologie qu'il y a derrière, ça choque. Et donc, il y a ce jeu très malin dans le bouquin. Donc, voilà, moi, je le conseille à tous ceux qui ont fait au moins 2 ans d'études et qui ne votent pas pour certains dont on pourrait citer le nom.
Ou voilà, les coiffeuses intéressées à la littérature. Lire,
mais dès qu'on le lit, c'est quand même remarquable sur la construction et sur ce qu'il raconte. Je sens que Laurent...
il oscille de gauche à droite.
Je suis moins enthousiaste que toi. Je trouve que... l'idée de la parodie, et on en connaît d'autres, de Chaplin à Sacha Baron Cohen. Voilà, en passant.
C'est très
Kaufman, mais justement, je trouve qu'il ne réussit pas tout à fait à nous entraîner sur le terrain parodique. Et donc, il y a des moments, notamment quand il soliloque, qu'il est alors c'est du délire, mais ça finit par prendre une certaine consistance qui est un peu, à mes yeux, trop sérieuse et qui finit presque premier degré, qui fait que à la longue tu ressens un certain malaise, alors que chez Chaplin, chez Lubitsch, etc., on est toujours clairement dans la parodie, on le sent très bien. Et ici, je trouve que quand il se confronte, et d'ailleurs le bouquin est très bien documenté, on voit bien, quand il se confronte à la réalité en amenant son schéma de l'époque avec les personnages de l'époque et tout ça, là on est clairement dans la parodie, on le sent très bien et c'est assez drôle parce que le personnage est grotesque, mais quand il entre comme ça dans des réflexions politiques sur l'époque, finalement, et la fin est un peu la quintessence de ça, je trouve que le personnage devient un peu trop humain. Et il y a une espèce d'empathie qui se crée et qui, moi, me dérange un peu.
C'est qu'à un moment, il a des réflexions que pourrait avoir n'importe quel bobo. Quand il roule dans Berlin, comme ça, et qu'il se rend compte qu'il y a maintenant une seule chaîne qui vend du café, Monsieur Starbucks, qu'on voit un peu partout, qu'il y a plus de... que toutes les boulangeries se ressemblent, mmh. toutes les boucheries se ressemblent, qu'il arrive dans cette maison de production qui ressemble à rien, enfin, qu'il y a une espèce de grand hangar. Enfin, il a des réflexions comme ça qu'on pourrait tout à fait mettre dans la bouche de bobos bien pensants, de bon sens,
ouais.
Mais qui pour le coup viennent d'Adolf Hitler. Donc je trouve il y a quelque chose
de très
intéressant à jouer cette carte là quoi. En effet, aller jusqu'au bout.
Mais je trouve que la critique sociale et politique finalement ne ressort pas suffisamment par rapport à une description de l'état de notre époque avec les dangers, parce qu'il y a évidemment cette allusion à ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, un démago avec les moyens internet modernes et tout ça pourrait très bien imposer une idéologie nauséabonde du même type. C'est un peu ça le message, quoi. C'est mm-hmm. ce parallèle. Mais je trouve qu'il le fait, mais avec quand même certaines zones d'ombre, et je trouve que ça n'est pas ultra pertinent dans la manière, et parfois je trouve ça assez ambigu.
C'est vraiment plus que sur Hitler ou sur le pouvoir des médias. Je trouve que c'est un bouquin sur le règne comme ça de l'ironie qui permet justement à ce gars d'être Adolf Hitler, et juste à cause du fait que voilà, l'ironie aujourd'hui domine tout, tu peux tout te permettre grâce à l'ironie. Et ben ce mec peut en effet avoir une émission de télé, peut avoir une tribune comme ça. C'est justifié par ça quoi, par cette espèce de cynisme ambiant comme ça qui fait que lui peut dire absolument les pire crasse s'en tenir à ce qu'il est vraiment et en même temps à ce que ça soit tout à fait accepté parce que ça
passe. Oui, mais à ce moment, si c'est comme ça que j'entends bien, est-ce que c'était nécessaire d'en passer par Hitler, qui a un tel symbole, etc. Je pense que ça aurait été plus fort et moins litigieux, à mon sens, de prendre un personnage émergent d'aujourd'hui
qui va vendu beaucoup moins.
Oui, évidemment.
En même temps, on est dans un produit aussi très marketé, la couverture.
Tout à fait, oui.
C'est ce qu'il dénonce
jusqu'au prix, hein, 19,33 qui fait allusion à la date de prise de pouvoir d'Hitler. Enfin, je veux dire, ça fait beaucoup, quoi. C'est un peu.
Mais c'est ce qu'il dénonce aussi dans son livre aussi. Il dit si Hitler réussit à avoir une tribune, c'est parce qu'il est aussi beaucoup plus convaincant que tous les autres sosies d'Hitler qui courent un peu les rues. Il y a des biographies, il y a des livres tous les trois mois.
L'Allemagne continue à être fascinée par,
par
cette figure-là. Et donc, c'est aussi ce qu'il dénonce là par l'absurde dans le bouquin, je trouve. Donc, il y a un côté très fort, presque trop marketé autour du principe de la manière. Ce qui est gênant, c'est pas que le bouquin existe et le pli qu'il prend, c'est que ça a fait un énorme succès en Allemagne. C'est ça qui pose aussi question.
Oui, parce que même sur le plan littéraire, je suis pas complètement. Je trouve que c'est bien écrit, mais c'est quand même répétitif. Et par exemple, les discours qu'il tient dans son émission, franchement, j'ai un peu, en termes de crédibilité, j'ai un peu du mal à en faire des discours qui vont emporter l'adhésion la plus large, même s'ils sont frappés du bon sens et qui frappent un peu sur les cibles habituelles.
Je sais pas si on peut prendre des extraits, c'est difficile parce qu'il y en a beaucoup, mais j'en avais pris un comme ça, c'est en direct, donc je me trompe peut-être d'extrait. Donc c'est dans sa tête. Hein. Le chômeur d'autrefois porte un panneau autour du cou où il était écrit « Cherche n'importe quel travail » et il se promenait avec dans la rue. Quand il s'était suffisamment promené, il mettait le panneau de côté, prenait un drapeau rouge que lui avait fourgué un bolchevique et descendait dans la rue, le drapeau à la main. Une armée de 1 million de chômeurs était la condition idéale pour tout parti extrémiste. Et le plus extrémiste de tous, c'était évidemment, et par chance, le mien. Mais aujourd'hui, je ne voyais aucun chômeur dans les rues. Ici, personne ne protestait. Et l'hypothèse que tous ces gens aient pu être regroupés dans des camps de travail se révèle erronée. À la place, on avait choisi la solution originale d'un certain monsieur Hartz. Et là, ça raconte la télévision, le pouvoir. Aujourd'hui, de la médiacratie qui ne met plus les ouvriers dans la rue et qui ne met plus. Ceux qui devaient se révolter ne se révoltent plus, et ça donne un terreau terrible et quand même inquiétant.
Mais justement, je trouve que la manière dont tu lis, c'est pas drôle. Enfin, je veux dire,
c'est peut-être pas le meilleur passage.
Non mais voilà, c'est ce qui me gêne, c'est que souvent ces réflexions-là ne sont pas nécessairement, reposent pas nécessairement sur un ressort humoristique flagrant où on peut en effet avoir le petit déclic.
Allez, quand ils discutent avec la patronne des Verts, quand tous les partis l'appellent.
D'accord, mais il y a des passages, mais je dis, je ne jette pas tout, mais je trouve que dans l'ensemble, le malaise l'emporte dans la balance sur les passages un peu plus.
Et tu demandais pourquoi Hitler, mais là, il acquiert une célébrité grâce à YouTube. Aujourd'hui, l'un des personnages les plus récurrents sur YouTube, c'est Hitler et la parodie de la chute avec cette fameuse scène. Enfin,
la banalisation est déjà faite.
Oui, c'est ça.
Bon, Balogi, tu n'as pas lu ce bouquin. Tu as lu 100 ans de solitude. Alors, est-ce qu'il y a des ponts à jeter entre...
A priori, aucun.
Aucun, voilà.
Faut réfléchir pour avoir des liens.
J'essayais quand même, hein, c'est sans jamais. Eh bien, 7 sur 10 pour moi, pour Il est de retour par Timur Vance.
Moi, 4.
Ah oui, quand même. Oh là, 4, c'est vraiment 5, dur, quoi, je trouve.
Moi, je vais mettre un bon 7. J'ai pris du plaisir à lire, je ne vais pas mentir. J'ai pris du plaisir.
Et Laurent,
un 6.
Un 6, et il est publié chez qui?
Chez Bellefond.
Chez Bellefond, voilà. Et enfin, on va terminer cette 30e avec un rapide tour d'horizon de nos derniers coups de cœur. Honneur à moi-même. j'ai adoré un spectacle documentaire proposé dans le cadre du Kunsten Festival des Arts, qui n'est pas un festival chiant, malgré le nom qui pourrait... Voilà. Ça s'appelle... Alors, ce spectacle était joué au Hall de Scarbeck, il s'appelait 100% Brussels, par le collectif Rimini Protocol, qui n'est pas italien mais allemand. Il s'agissait donc de mettre en scène des statistiques relatives à Bruxelles et de les incarner à travers un échantillon représentatif de 100 personnes. Donc,
et ça, c'était bien.
C'était terrible. 100 personnes qui montent sur scène. Oui, ça n'a pas l'air comme ça. Je vais très mal le raconter. 100 personnes qui ne sont pas des acteurs, mais qui sont des outils au service du propos. Ça commence tout bêtement avec des questions comme, par exemple, dans quelle commune habitez-vous? Quel âge avez-vous? Etc. Et les gens répondent en se positionnant par rapport à dans l'espace, en fait. Et ça se poursuit en rentrant de plus en plus dans l'intime. Qui est amoureux dans la salle? Qui porte une arme à feu? Qui a déjà pensé à la mort? Qui a été sans abri? C'est vraiment bouleversant. C'est galvanisant. C'est beau comme la vraie vie, en fait. C'est ça qui est vraiment très émouvant. Ouais.
Faut juste arriver à l'heure.
C'est bien dit.
Faut juste arriver à l'heure.
Sinon, tu ne rentres pas.
Ça a été ton cas?
Ça sent le vécu.
Ah, d'accord. Ah bah, flûte alors.
Donc, un spectacle de merde.
Surtout que c'était pas gratuit, hein, l'entrée. Enfin, bref. C'est ce que j'ai vu de plus étonnant et de plus indispensable ces derniers mois comme spectacle vivant. Malheureusement pour Bruxelles, c'est fini. J'espère que ça repassera. Mais ce sera à Paris avec des statistiques parisiennes à la fin du mois au Parc de la Villette. Et je ne saurais trop conseiller à nos éditeurs français d'aller voir 100% Paris par le Rimini Protocole. Alors, Balogi, toi, tu es venu avec ton petit baluchon rempli de suggestions.
Ouais, parce que j'avais pas compris.
Mais c'est très bien.
Dans
c'est
chaque
bien.
Discipline. Et donc, j'ai fait ma petite liste. Et
c'est bien, vas-y, profite. Donne des conseils.
En cinéma, j'ai mis deux choses, deux films que j'ai trouvé extrêmement intéressants. Un film brésilien qui s'appelle Les Bruits de Recife, qui est sur, je ne sais pas si tu as vu.
Non, je n'ai pas vu, mais en effet.
Sur l'arrivée dans un quartier résidentiel de malfaiteurs. Que personne ne voit, mais c'est surtout sur les l'interaction ou comment les gens dans ce quartier interagissent entre eux et partagent leurs peurs, en fait. Et je trouvais ça vraiment un film très intéressant. Et sinon, j'ai mis un film américain extrêmement improbable, dont j'ai oublié le nom, avec Lindsay Lohan, écrit par Britt Easton Ellis.
Avec cet acteur porno.
Avec l'acteur porno Dean, c'est... quelque chose, Mike Dean ou...
James Dean.
Si je dis que le nom dit quelque chose, je
faites semblant que vous ne savez pas.
Non, les actrices, oui, mais les acteurs excuse-moi. Et je trouvais que c'est un film assez intéressant, qui n'est pas super abouti, c'est une espèce de thriller érotique, mais ça vaut le détour, parce que c'est un film... qui se passe à L.A., mais qui est anti-Hollywood.
Et donc, c'est de Canyons, de Paul Schrader.
Ah, Paul Schrader.
Voilà.
Alors, qu'est-ce que tu nous as encore
apporté? J'ai trouvé ça très bien. En musique, je voulais parler d'une chanteuse qui s'appelle Saint-Vincent, que je trouve extraordinaire et qui a très peu de reconnaissance en Europe, étrangement. Mais je trouve qu'elle a un univers au niveau des vidéos et au niveau de l'écriture qui est vraiment intéressant, qui mérite d'être plus connu.
Qui vient d'où? C'est une Française?
C'est une Américaine. Mais je pense que Laurent en sait plus que moi à ce niveau-là.
C'est une Américaine.
D'accord.
Non, c'est Anne Clark, elle s'appelle.
Oui, Anne Clark.
Voilà.
Anne Clark, oui.
Elle a, par exemple, travaillé avec David Byrne sur...
Ils ont fait un album duo.
Ouais. Voilà, c'est ça. Qui était passé par les Beaux-Arts l'été dernier, je pense. Oui, c'est vraiment, en effet... Enfin, je vais pas faire de... doublonné, mais c'est vrai que c'est quelqu'un de assez passionnant à suivre.
Alors, Wikipédia nous
et
informe.
Et même sur Twitter, elle est assez extraordinaire à suivre sur Twitter.
Ah ouais. Elle a sorti sa propre marque de café.
Mais non.
Là, je tenais à le signaler.
Comme Kelly qui sort sa marque de sauce.
Absolument,
c'est
comme James
étonnant cette histoire.
Comme James Murphy de LCD Sound System.
Exactement.
Qui avait sorti aussi son.
Et donc Wikipédia nous dit que sa musique est souvent décrite comme un croisement savant d'influences qui vont de Kate Bush à Billie Holiday, de Face à PJ Harvey, sans oublier David Bowie. Ça va, quoi.
C'est tout à fait juste.
Oui.
Ouais.
C'est une bonne référence, je crois.
Puis très féministe et je trouve très libéré. Voilà. Mm-hmm. Ça fait du bien d'entendre un artiste comme ça, qui n'a aucune contrainte et qui a en plus une virtuose à la guitare.
Ok.
Et très sexy à voir sur scène.
Saint-Vincent, Annie Clark.
Toutes les qualités.
Alors, tu nous as amené du bouquin aussi.
Alors, c'est le dernier bouquin que j'ai lu. Ça s'appelle La petite communiste qui ne souriait jamais, de Lola Lafont. Mm-hmm. Je ne sais pas, à mon avis, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé.
Je ne sais plus si on l'a
critiqué. Je ne sais pas si c'est célèbre, ouais. Mais en tout cas, sur une centaine de pages, il décrit en fait la transformation physique de cette athlète, donc c'est une gymnaste roumaine.
Dans c'est une les référence années, à Nadia Comăneci.
Oui, c'est ça, c'est elle.
Et je trouve ça juste fabuleux. Mm. Voilà. Juste pour les 100 premières pages où elle se présente aux Jeux Olympiques de, je ne sais plus, 96, puis elle revient 4 ans plus tard, où son corps a changé, où elle n'arrive plus à émouvoir la nation de la même manière. Et c'est assez fabuleux, je trouve.
Voilà. Ça donne envie.
Oui, tout à fait. Que de bons choix.
Et est-ce que tu as encore quelque chose?
Non, je pense que là, c'est bon. Mon temps est
impacté. Ouais.
Laurent, le chef.
Alors moi, je viens avec une BD brésilienne, Le Brigand du Sertao, de Wellington Schreck. C'est S-R-B-E-K, peut-être que Balot pourra m'aider dans la prononciation. Et Flavio
Colin. et qui a la... Alors cette BD au Brésil est considérée un peu comme un classique. L'un des deux auteurs est décédé, elle est sortie il y a une bonne dizaine d'années. Et bah, c'est vraiment une découverte parce que graphiquement c'est magnifique, c'est des noirs et blancs très contrastés. Ça raconte l'histoire dans les années 20 d'une région qui s'appelle le Nordeste au Brésil. Et comment à l'époque cette région est sous la coupe des brigands qui ne manquent pas de trucider tout sur leur passage. Et voilà, donc il y a des allers-retours entre les troupes gouvernementales qui s'amènent pour essayer de nettoyer un peu, pacifier la région, mais les troupes gouvernementales sont tout aussi barbares que les brigands, et donc ça fait des allers-retours comme ça et des confrontations. Voilà, c'est très baroque, il y a ce réalisme magique un peu qu'on peut retrouver dans l'univers, la mythologie un peu brésilienne, ce côté un peu exotique dans le bon sens du terme, et c'est une BD qui surprend, mais qui est très très convaincante, avec une espèce de Far West exotique, voilà, que je conseille, vraiment une belle découverte.
Le titre ?
Alors, Le Brigand du Sertão.
D'accord.
Sertão.
Ah oui, merci. Ah oui, c'est vrai, Laurent, tu prends des cours de ouais, portugais. Ah, mais voilà, tu vois que ça sert.
C'est chez Sarbacane.
Chez Sarbacane.
Du Brésil, on va en bouffer, hein, dans les semaines qui viennent.
Et Olivier,
c'est vrai que c'est une des dernières émissions où on parlera pas de foot.
Oui, c'est ça, parce qu'après, c'est parti. Là.
Ouais.
Non, mais je vous rassure, on parlera pas de foot dans cette émission.
Le coup de cœur, ce sera l'équipe d'Argentine. Le livre, ce sera sur Platini.
Et l'album Panini. Olivier, tu es venu avec quoi ?
Rien à voir avec le foot, un petit coup de cœur pardon, qui dira quelque chose à Balogie. Il y a un concert la semaine prochaine, je ne sais pas si au niveau du podcast on sera dans les temps, qui se tient le 22 mai à Liège à la caserne Fonck, qui sont mes amis, oui. Les deux fils de pute.
Ah oui, tu nous en avais déjà parlé.
Voilà, ici. Donc qui viennent de la Poutasse, Mimouz et Seziwan, qui font très peu de conseils. Ils ont fait un LP il n'y a pas longtemps, ça reste du rien à branler, typiquement bruxellois, RAB, que Balogie connaît, puisque Seziwan avait fait la couverture de votre album Survivant, si je me souviens bien. Donc voilà, si vous êtes à Liège, que vous voulez entendre du bon rap, c'est là qu'il faut aller. Ce sera très bien, les deux fils de pute.
Le 22, donc.
Le 22, eh ben, oui. À la Caserne Fonck, dans le cadre de l'Open Street Festival.
On est à temps, merci pour le conseil. Et Laurent...
Ah, Myriam,
je vois. Oh, ben oui. Laurent.
C'est un disque que je dois le tuyau quand même à mon éminent collègue Julien Broquet,
ah,
qui a été voir leur concert aux Ateliers Closes, enfin à la salle Rogier, là, en centre-ville. Et c'est un duo britannique qui s'appelle Sleaford Mods. Leur album va sortir, leur nouveau s'appelle Divide and Exit. Et c'est deux gueules bien ravagées qui font une espèce de mélange entre... punk imbibé à la lager, un peu de rap, un peu d'esprit mods, un peu déglingué comme ça. C'est l'Angleterre des bas-fonds, quoi, celle qui en prend un peu plein la tronche. Et franchement, il faut aller voir, par exemple, ne serait-ce que leur gueule sur
internet. Punk,
ils ont l'air bien loin. Et
t'as une photo là ?
C'est l'époque version 2014. Au niveau des gueules.
Hein. Ouais, c'est ça. Enfin, il y a un côté très
punk dans l'esprit,
très,
hein.
Très cru, très punk, enfin, et très alcoolisé. C'est vraiment très drôle à écouter, mais voilà, c'est assez cru et direct, et ça sent l'authentique.
Et la transpiration, visible.
Et la transpiration, bien entendu.
Méthode pas que Julie arrive.
Voilà.
Et ben voilà, c'est déjà tout pour cette 30e. Merci Balogie de nous avoir rejoints pour marquer le coup. Un petit coup de promo en passant, voilà. Le boulevard est ouvert.
C'est temps.
Je n'ai juste rien à vendre.
Mais non, ça n'existe
quel
pas.
Quel dommage.
Ça.
Ah, malheureusement, oui.
Il n'y a même pas un concert.
Non, rien du tout.
Mais en avant, il y a un album qui est annoncé.
Oui, il y a un album qui est fini. Et comme je disais tout à l'heure à mon ami Laurent. Je suis un artiste frustré, donc j'emmagasine le matériel et j'espère le sortir très prochainement.
Ouais, bon, on sera super attentif en tout cas. Mais merci beaucoup d'être venu. Franchement, un membre de l'équipe plus vrai que nature.
Ouais. Ouais, il a mieux bossé que nous, j'ai honte.
Ah, oui.
On l'adopte.
Chaque deux semaines, c'est quoi ?
Toutes les deux semaines. Et ben voilà. Engagé. Salut l'équipe, salut les deux Laurent, salut. Merci salut. À Olivier, à très bientôt dans vos oreilles et sous vos yeux, chaque semaine dans Focus, vendu avec le Vif l'Express. Ciao, à bientôt.
Salut.